Une agriculture fertile et prospère dans la forêt amazonienne précolombienne, eh bien c'est le sujet de notre une aujourd'hui.
Les Indiens, lorsqu'ils abattent un morceau de forêt pour le brûler et ensuite planter de très nombreuses espèces de plantes, modifient l'environnement. Et au fil des générations, au fil des siècles, au fil des millénaires, ce mouvement a transformé profondément la forêt amazonienne.
Voilà, c'était la voix de l'anthropologue Philippe Descola soutenant la thèse d'une forêt amazonienne domestiquée. C'était en 2012. Et pour confirmer d'ailleurs ses propos, eh bien, cette étude qui paraît dans la revue Science et qui montre que les 85 espèces d'arbres les plus abondantes dans la grande forêt tropicale sont en réalité les vestiges incontestables d'une lointaine agriculture humaine. Bonjour Stéphane Rostin.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, spécialiste de l'Amazonie, directeur de recherche au CNRS. Alors depuis quand cette idée d'une forêt amazonienne remplie d'humains et largement domestiquée a émergé dans votre discipline ?
Oh, ça fait à peu près une trentaine d'années que c'est sorti, et ce sont pas les archéologues les premiers à en parler, ce sont plutôt des anthropologues, des botanistes qui ont remarqué, des écologistes, des écologues qui ont remarqué cette ultra-diversité. On parlait de diversité en mathématiques, elle est encore plus marquée en Amazonie et dans les forêts tropicales, autant chez les chercheurs que dans les arbres. Mmh.
Comment il faut se représenter la forêt et ses habitants au moment de l'arrivée des colons européens ?
Alors, elle avait sans doute pas grand-chose à voir avec la forêt actuelle, puisqu'il y avait des sociétés un peu partout. Il faut imaginer une forêt très peuplée. On a tué quand même par nos maladies importées près de 95% des habitants de l'Amazonie. Donc il y avait des grands villages de plusieurs milliers d'habitants un peu répartis partout. Vous aviez des champs énormes de maïs et d'autres plantes. Elle était très densément utilisée par les Amérindiens, des chemins un peu partout. Et tout ça a disparu en quelques décennies suite au choc microbien énorme des maladies importées par l'Européen.
Qu'est-ce que c'est ce choc microbien exactement ?
Alors c'était des maladies inconnues des Amérindiens, ça pouvait être de simples rhumes, beaucoup de maladies pulmonaires, et comme ils n'avaient pas d'anticorps et n'avaient jamais affronté ces maladies, ils mouraient comme des mouches. Quelques explorateurs racontent comme ça pénétrer dans des villages peuplés de squelettes, de morts dans leur hamac. Ils n'avaient même pas eu le temps de s'enterrer mutuellement. Ils étaient tous morts en quelques semaines après avoir été atteints par nos virus.
Comment une étude sur les espèces d'arbres, hein, c'est celle qui est publiée dans Science aujourd'hui, nous permet d'arriver à retrouver ce tableau que vous décrivez là ?
Alors, il faut savoir que l'Amazonie est un trésor de biodiversité, mais en même temps aussi un trésor de diversité scientifique, puisque depuis plusieurs années, les études ne sont plus monodisciplinaires, mais interdisciplinaires, et donc ce sont toujours des équipes de plusieurs spécialités qui travaillent ensemble, notamment les archéologues, les anthropologues, les géologues, les botanistes, et donc en croisant les données mutuelles de chacun, on arrive à avoir des résultats assez stupéfiants, comme ici dans cette étude dans Science, où vraiment là, il y a une vraie association entre archéologues, botanistes et autres spécialistes pour se rendre compte de la dispersion très importante des espèces domestiquées.
Stéphane Rostin, pourquoi est-ce qu'on trouve très peu de références justement à ces civilisations dans les témoignages, même des colons européens d'ailleurs ?
Parce qu'ils les ont pas vus. C'est assez étrange, mais à vrai dire, l'Amazonie a une grande particularité assez étrange, c'est qu'elle a été découverte non pas de son aval à son amont, mais de son amont à son aval, puisqu'une expédition est partie de Quito à la recherche de la cannelle, du pays de la cannelle, et a découvert ainsi l'Amazonie en 1541. 50 ans après, il n'y avait presque plus personne en Amazonie, ils étaient tous morts, et donc les expéditions suivantes qui ont traversé l'Amazonie ont rencontré des grandes aires vides. Et le premier témoignage, donc la première expédition d'Orellana, où il disait avoir vu des milliers d'Indiens, personne n'y a cru pendant 500 ans, même les archéologues du début du XXe siècle n'y croyaient pas, jusqu'à il y a 30 ans, où une nouvelle génération d'archéologues a décidé de vérifier quand même la véracité de ces dires, et on s'est aperçu que, en effet, il y avait eu des grandes villes, en effet, il y avait eu des populations denses et extrêmement savantes.
Ça veut dire que ces colons ignoraient totalement les microbes qu'ils ont répandus absolument partout en causant ces milliers de morts ?
Bien sûr, non, on est arrivé avec nos maladies européennes qui se sont tropicalisées, je peux dire, qui se sont multipliés sur place, mais on ne savait pas qu'on les apportait. Alors il y a une phrase qu'aiment dire certains Amérindiens, il suffisait qu'un blanc éternue à côté d'un Indien pour qu'un village entier disparaisse.
Vous faites partie de ces archéologues qui depuis 30 ans fouillent. Qu'est-ce qu'on trouve comme trace de ces peuples aujourd'hui ?
Alors évidemment c'est rarement spectaculaire. Ce sont évidemment des tessons de céramique, des outils en pierre, mais on trouve surtout des changements dans le paysage. Il y a les changements de la végétation dont parle cet article de Science, mais il y a aussi des changements dans la composition de la terre. Le fait d'avoir habité longtemps et d'avoir été très nombreux au même endroit fait qu'on a transformé la chimie même du sol pour le rendre fertile. Et les Amérindiens surtout ont fait beaucoup de terrassement, ont transformé la superficie même du sol en creusant des canaux, en surélevant des buttes et en transformant finalement le paysage.
Est-ce que vous vous demandez parfois ce que serait devenu l'Amazonie sans le choc microbien ?
Oui, je me pose souvent la question, puisque les populations étaient des scientifiques à part entière, et on a toujours tendance à croire que nous, scientifiques, qui sommes là depuis 300 ans en Amazonie, connaissons tout. À vrai dire, on a beaucoup à apprendre de ces Amérindiens qui vivent là depuis 10 000 ans et qui ont une science extrêmement importante. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je plaide pour défendre une image de l'Amazonie un peu plus proche de la vérité, revenons à la vérité mathématique, en tentant de la démystifier. C'est ce que je tente de faire dans un livre qui sort aujourd'hui.
Même. Et que j'ai d'ailleurs entre les mains, Stéphane Rostin, qui s'appelle « Amazonie, les 12 travaux des civilisations précolombiennes ». C'est aux éditions Belin, pour revenir justement sur ces civilisations un peu trop oubliées visiblement. Merci beaucoup pour votre éclairage à l'occasion de l'apparition de cette étude dans Science. Et Axel, on se retrouve demain.
Exactement, à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la plaque dentaire de Néandertal nous révèle ses secrets. Les dents de 5 individus découverts dans la grotte d'El Cidron en Espagne nous apprennent que nos lointains cousins mangeaient il y a 50 000 ans des champignons, de la mousse et des pignons de pin. Plus intéressant encore, l'analyse de fragments d'ADN piégés dans cette plaque dentaire suggère des pratiques d'automédication. Chez un des individus, les chercheurs ont trouvé de l'ADN de peupliers riches en acide salicylique, le principe actif de l'aspirine, ainsi que des traces de moisissures de pénicillium, un antibiotique. Les auteurs pensent que le malchanceux a tenté de se soigner d'un abcès dentaire bien visible sur les fossiles retrouvés. Un nouvel état de la matière dévoilé grâce à la physique quantique, les cristaux temporels, alors que les cristaux classiques, comme le diamant, sont formés par la répétition cyclique des mêmes arrangements d'atomes dans l'espace, et bien les cristaux spatiaux sont la répétition cyclique des mêmes états énergétiques des atomes, mais cette fois-ci dans le temps. Ce nouvel état de la matière, jugé impossible par certains physiciens, vient pourtant d'être obtenu artificiellement pour la première fois à l'aide de lasers par une équipe internationale. Cette découverte fait l'objet de 2 publications simultanées aujourd'hui dans la revue Nature, qui lui consacre même sa une. Et puis le manque de sommeil des ados diminue la taille de leur cerveau. Une étude menée par l'INSERM sur les habitudes de sommeil de 177 élèves de la région parisienne montre que moins de 7 heures de sommeil et un endormissement tardif le week-end diminuent significativement le volume de matière grise. 3 régions en particulier seraient touchées. Elles sont liées respectivement à l'attention, à la concentration et à la réalisation des tâches simultanées. Les auteurs conseillent donc de veiller surtout à un bon rythme de sommeil le week-end pour optimiser le potentiel de développement du cerveau en pleine construction à cet âge.